Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chaque invité depuis chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, le sport peut-il se passer du spectacle du sport? Le ministère des Sports a publié récemment un guide des bonnes pratiques pour une trentaine de sports collectifs, individuels ou de combat qui nécessiteront pour ceux qui les pratiquent de changer considérablement leurs habitudes. Car si beaucoup ont profité du confinement pour se remettre au sport, comme on dit, cette pratique occasionnelle n'a rien à voir avec celle régulière de celles et ceux qui fréquentent les 360 000 associations sportives de France, des associations qui se demandent pour certaines comment elles vont passer l'été, période de compétition ou de rencontre. Parallèlement, le sport professionnel et en particulier le football piaffe de l'arrêt des championnats et aimerait pour certains reprendre la compétition même à huis clos comme en Allemagne. Mais qu'est-ce qu'un spectacle sans spectateurs? Demandent les clubs de supporters qui pendant le confinement ont changé d'image en refusant le redémarrage des compétitions et en aidant les soignants. Bref, en cette année qui aurait dû être olympique et connaître à la fois un euro de football en France et des championnats d'Europe d'athlétisme à Paris, le milieu sportif est parcouru de courants contraire et parfois violent. Nous en parlerons avec Denis Massilia, il est président du Comité National Olympique et Sportif Français, avec Christophe Lepetit, économiste au Centre de Droit et d'Économie du Sport à Limoges, avec Nathalie Bonnefoy, elle est vice-présidente de l'Association Nationale des Élus en charge du sport et adjointe au sport à la ville de Bourges. Et enfin, avec Nicolas Xismartoff, il est journaliste au journal SoFoot et auteur de Terrain de jeu, terrain de lutte aux éditions de l'Atelier qui sortira le 4 juin. Bonsoir Denis Massilia.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Bonsoir Christophe Lepetit.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie Bonnefoy.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous Nicolas Xismartoff. Vous êtes spécialiste du sport populaire, terrain de jeu, terrain de lutte. C'est un livre qui devait paraître pendant le confinement, qui va paraître dans quelques jours, le 4 juin, dans les librairies et qui raconte justement une histoire d'un sport populaire. Comment en fait se sont croisés les mouvements sociaux et également les mouvements donc sur le terrain et en particulier sur les terrains de football. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de sport populaire. C'est ce qu'on entend plus, qu'on vient d'entendre, exactement, à savoir le « on est là » de Lens, qui ensuite a été réadapté pour pouvoir être descendre dans la rue et participer aux manifestations contre la loi des retraites ou des gilets jaunes, et puis également le fameux Seven Nation Army qui est chanté dans quasiment tous les stades du monde.
Oui, bah, il y a une interrelation qui est évidente entre le mouvement des supporters, le mouvement ultra dans les tribunes et ce qui a pu exister dans les manifestations. On a aussi vécu ça avec on vous met le feu ou d'autres slogans qui venaient par exemple des tribunes marseillaises. Mmh. Il y a le fait que c'est le même public, c'est la même culture populaire au sens large, avec donc forcément des croisements, des rencontres. Le fait aussi que le mouvement ultra est quand même quelque chose, mon supporter est quelque chose qui se structure énormément en mode associatif, en mode revendicatif. Et on a pu voir récemment qu'il s'est exprimé de manière très responsable, très structuré dans son langage et dans ses arguments pour réclamer justement que les matchs ne redémarrent pas en dehors de ce qui était les nécessités liées au, évidemment à la lutte contre le Covid. C'est aussi un mouvement où il y a par exemple beaucoup de gens qui étaient fonctionnaires, qui travaillaient dans les hôpitaux, qui étaient éboueurs et qui donc avaient une autre perception de des nécessités et des enjeux du moment. Voilà, les mouvements sociaux, les mouvements populaires, à travers l'histoire et depuis très longtemps, se sont souvent croisés. Le sport, loin d'être un terrain neutre, a toujours été un espace où des considérations politiques, sociales et parfois culturelles ou idéologiques ont pu se retrouver de manière parfois instrumentalisées, souvent nobles.
Et Christophe Le Petit, vous qui êtes économiste au Centre du droit et d'économie du sport à Limoges, on peut dire que le sport, c'est aussi un spectacle. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a titré « Le sport peut-il se passer du spectacle du sport ?» et que donc ce spectacle, il n'est pas simplement télévisuel, mais il est aussi un spectacle, disons, comme un spectacle vivant, comme on dit du théâtre, de la danse ou d'autres types de spectacles.
Oui, tout à fait. Le sport, c'est un grand ensemble composé de beaucoup de structures, de la plus petite structure amateur à la très grosse structure professionnelle. Quand on parle de spectacle sportif, évidemment, à mon sens, on ne peut pas imaginer le spectacle sportif sans l'un de ses acteurs importants.
Et le donc public.
Sans les supporters. Exactement. Pour passer un bon moment dans un stade ou pour passer un bon moment devant un match de football ou de rugby ou de tennis, puisque on devrait assister à Roland-Garros en ce moment, il faut un très beau spectacle sportif avec donc des bons joueurs et du spectacle sur le terrain, mais aussi avoir une expérience intéressante que l'on vit. Chacun à son niveau, chacun à sa façon, dans le stade, avec des supporters qui, par leur chant, par leur tifo, par leurs animations, contribuent à créer une ambiance festive, chaleureuse. Et donc c'est vrai que le spectacle sportif sans supporters, c'est quelque chose qui est profondément antinomique.
Oui, même avec des vuvuzelas, comme ça a pu arriver en Afrique du Sud et qui n'était pas toujours du goût de tout le monde. En l'occurrence, Denis Masselien, quand on est président du Comité national olympique et sportif français, j'imagine que ce moment que vous vivez ces temps-ci est un moment très particulier parce qu'il nécessite justement une adaptation à quelque chose qui était inconnu dans le milieu du sport.
C'est surtout pas un moment qu'on avait pu préparer auparavant. Donc, si l'incertitude fait partie des moments importants du sport, pour autant...
Ah oui, c'est la fameuse incertitude du sport. Oui, c'est...
on l'avait pas prévu et on a hâte aussi de retrouver, entre guillemets, une vie normale. Pour ce qui est de la présence des supporters, je partage évidemment le fait que sans les supporters et sans l'ambiance autour, le spectacle sportif n'est plus le même. Maintenant, quand même, je préfère qu'on ait quelque chose qui se passe entre sportifs, même sans public, que rien qui ne se passe.
Vous préférez le sport sans public ?
Ouais, mais il n'y a rien de pire pour les sportifs que l'inactivité dans laquelle ils sont actuellement.
Mais néanmoins, il y a quand même l'émotion du public et un match peut se retourner. On sait combien les matchs, d'ailleurs dans tous les domaines, peuvent se retourner grâce au public.
J'ai simplement dit que c'était mieux d'avoir un match sans public que pas de match. C'est évidemment extrêmement mieux et complètement différent d'avoir un match avec tous les ingrédients, y compris le public, que d'avoir un match sans public. C'est pas comparable. C'est évidemment, c'est pas le même sport.
Oui. Mais vous n'êtes pas d'accord avec Didier Deschamps qui disait ce matin que tout compte fait, le fait d'arrêter les matchs, par exemple, c'était une décision sage du gouvernement qu'il fallait accepter. Il disait en fait, si dans certains pays les matchs se reprennent, c'est juste parce que, par exemple, il n'y a pas de championnat féminin en Allemagne, en foot, parce que c'est des questions de gros sous, laissait-il entendre.
Je ne sais pas si on doit ramener tout ça uniquement à une question d'argent. Moi, je pense que si j'étais en âge d'être compétiteur, c'était il y a longtemps, pour ce qui me concerne, je piafferais d'impatience à l'idée de reprendre la compétition. Et même si elle se passe avec un huis clos, simplement le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se dépasser, de pouvoir se comparer, c'est aussi le propre du sportif. Et il n'y a pas que des raisons économiques dans cette pensée-là.
Nathalie Bonnefoy, vous êtes vice-présidente d'une association qui s'appelle l'ANDES, qui veut dire Association Nationale des Élus en Charge du Sport. Vous êtes également adjointe au sport à la ville de Bourges. Bourges est une grande capitale du sport féminin, en particulier du basket féminin, avec votre club, le Tango Bourges Basket, qui est un club qui a longtemps été au sommet, qui est d'ailleurs toujours au sommet, qui est concurrence de Clermont pour ce qui est des résultats nationaux. Votre salle qui accueille justement cette compétition, ces compétitions, est une salle de 5000 places. Vous avez eu très récemment d'ailleurs un tournoi de qualification olympique qui s'est tenu en février dans cette même salle du Prado. J'imagine qu'en tant qu'élu, vous êtes très gêné de ce qui est en train d'arriver.
Oui, tout à fait. On est très gêné de ce qui vient d'arriver. Et on est aussi dans une période où, comme le disait Denis Massiglia, les clubs veulent reprendre leur activité, mais on a des difficultés pour réouvrir nos infrastructures sportives en fonction de chaque discipline et de chaque stade ou gymnase. C'est une grosse difficulté à l'heure actuelle pour les élus de l'ANDES. L'ANDES a travaillé avec le ministère et l'ANDIS, l'association des directeurs de sport, pour faire des protocoles de réouverture, mais tant qu'on n'aura pas réouvert nos gymnases sans vestiaire, ça va être une très grosse difficulté. Et par rapport au palais des sports de Bourges, une équipe de basket sans public, c'est pas de partenaires, c'est voilà, on va vers des difficultés sociales et économiques pour l'ensemble des clubs et des associations sportives.
Oui, et donc le constat pour une ville comme Bourges, c'est quoi? C'est des clubs qui sont en difficulté financière, c'est la nécessité pour la ville de remettre au pot pour faire en sorte que les pratiques sportives puissent continuer au moins pendant l'été, et puis ensuite on l'imagine à l'automne.
Voilà, on est en train de mettre en place par discipline et par lieu des protocoles pour que les clubs, notamment par exemple en athlétisme, puissent reprendre leur activité en groupe de moins de 10. Et puis en parallèle, bon, dans la plupart des communes en France, il y a un maintien des subventions aux clubs sportifs, mais les clubs ont perdu les buvettes des tournois, ont perdu toutes les manifestations qu'ils pouvaient organiser. Donc il y a une grosse crainte par rapport aux clubs sur leur budget associatif.
Sans compter d'ailleurs une crainte qui est différente, mais peut-être d'une chute du nombre des licenciés au lendemain de cette période. On peut estimer que des parents n'aient pas envie d'inscrire leurs enfants dans des clubs de peur justement que ce Covid ne revienne. On peut estimer effectivement qu'il y a tout un tas de raisons qui feront que peut-être il y aura moins de licenciés, donc moins d'adhésion aux clubs sportifs en France.
Oui, je partage complètement. C'est la crainte qu'ont les clubs sportifs. C'est la perte de licenciés. On disait, voilà, aller voir un match sans public, mais si dans le public, il n'y a pas des jeunes enfants et qu'on ne donne pas envie de pratiquer la discipline sportive, c'est le premier point. Et le deuxième point, je comprends aussi les parents qui vont avoir des doutes de confier leurs enfants dans un club. Donc, on s'attend à une rentrée en septembre difficile, à la fois pour les finances du club, mais surtout pour l'envie de pouvoir pratiquer une activité dans un club. La pratique, je dirais, individuelle a été largement favorisée pendant cette période du Covid. Est-ce que les gens vont revenir dans une structure associative? Tout est la question.
Nicolas Ksismartoff, vous qui travaillez sur la question du sport populaire, du sport spectacle, du rôle social du sport dans la société, et vous avez fait des histoires autour de cette question, justement, du rôle social du sport depuis le début du XXe siècle, et encore Terrain de jeu, Terrain de lutte revient sur cette question-là qui paraît le 4 juin en librairie aux éditions de l'Atelier. On a vu une guide des bonnes pratiques se mettre en place. On connaissait le foot à 7, on ne connaît pas forcément le foot à 10 joueurs, mais c'est ce que le ministère des Sports espère pour le football, 10 joueurs maximum. Et on va pratiquer du air-ballon, car comme dans beaucoup de disciplines, on demande, pour des raisons sanitaires, eh bien de ne pas se toucher, de ne pas se rapprocher, etc. Ce qui rend complexe, disons, les règles sportives habituelles, pourrait-on dire, Nicolas Ksismartoff.
Bah oui, alors là je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses. La première, c'est ce qui concerne l'urgence dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire effectivement les contraintes pour éviter une reprise de l'épidémie, la crainte des clusters, la crainte de voir des foyers de nouveau se constituer à travers des activités liées effectivement essentiellement à des sports collectifs. Il y a un nouveau guide là qui donc a été publié par le ministère.
En même temps, le judo, ça doit être compliqué tout de même.
Oui, mais judo, mais par ailleurs, là où il y a un immense un sentiment des fois d'incompréhension dans le milieu sportif aujourd'hui, c'est qu'on voit les débats autour du Puy du Fou, etc.
Ouais.
L'ouverture des bars, on se dit à un moment, pourquoi pas des activités sportives, d'autant plus, et là, le vrai enjeu, il a été dit récemment, il y a peu de temps par l'ANDES, voilà, c'est la question du retour que certaines fédérations sportives d'ailleurs mettent en avant également, dans les associations sportives, des activités, est-ce que il va y avoir une possibilité de revenir entre guillemets à la normalité? Est-ce qu'il n'y aura pas des dégâts collatéraux par tout ce discours de la distanciation sociale, cette dimension anxiogène qui était largement fondée pour des raisons sanitaires autour de la peur de l'épidémie, qui risque à un moment d'affaiblir un mouvement sportif, associatif, qui est très important et très structurant pour notre société et qui est essentiel. D'autant plus que, pour le coup, effectivement, il y a eu, même si beaucoup de clubs ont continué à organiser des activités à travers des visios, en yoga, parfois même en judo, des entraînements comme ça, de la sorte, à travers différentes applications, est-ce qu'il risque pas d'avoir une mise en avant des activités à domicile, individuelles?
Solitaire.
C'est tout ce débat qui se développe et qu'on a vu apparaître à travers la promotion des JO, etc., entre licenciés dans les fédérations, qui sont quand même très nombreux et très importants, les bénévoles, les encadrants, et cette notion de pratiquant sportif qu'on voit se diffuser sur des pratiques effectivement à la maison, à domicile ou à travers le vélo, qui le fait d'aller au vélo au travail suffirait entre guillemets à remplacer une pratique sportive. Il y a quand même cette inquiétude, et surtout ce qui est fondamental, il faut savoir le rôle qu'a joué et que joue toujours le réseau sportif associatif dans le fonctionnement et le lien social dans nos sociétés. Alors ça semble très pompeux à raconter comme ça, mais c'est des millions de jeunes notamment qui sont concernés et moins jeunes, notamment pour le troisième âge, ça devient très important, et c'est surtout des millions d'associations, des centaines de milliers d'associations qui quadrillent le territoire, et notamment dans des lieux où il n'y a pas d'autres, beaucoup d'autres structures qui le permettent. Donc voilà, c'est ça la grosse inquiétude, c'est la rentrée de septembre en fait qui se pose aujourd'hui devant nous.
Oui, sur ce point, Christophe Le Petit, vous qui êtes économiste du sport, justement au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, il y a effectivement cette crainte pour en particulier des associations sportives amateurs qui n'ont pas beaucoup de fonds de ne pas pouvoir peut-être continuer, en particulier peut-être parce que des gens ne viendront plus faire du sport chez eux.
Oui, oui, c'est une crainte avérée, hein, de nombreuses fédérations ont cette crainte. Je pense que Denis Masseglia pourra...
Mais je lui donnerai la parole après vous.
Sur ce sujet. Mais effectivement, c'est une crainte, d'une part, pour les clubs eux-mêmes, puisqu'on sait que, contrairement à une idée reçue, les adhésions sont la principale recette, et en tout cas la première recette des clubs associatifs. Hein. D'ailleurs, on s'apprête à communiquer une étude qu'on a réalisée pour le CNOSF très prochainement, et on montre justement que dans le modèle économique, 42% des recettes proviennent justement des adhésions. Donc,
parce qu'il y a cette crainte, il y a cette crainte que des familles ne veulent plus, par exemple, venir pratiquer le sport, mais il y a aussi la crainte simplement d'une perte de pouvoir d'achat massive des familles qui les empêcherait. Ils seraient obligés de faire des choix. Ils ne viendraient plus pour payer une adhésion, par exemple.
C'est exactement là que j'allais venir, effectivement. C'est-à-dire que vous avez des Français et des Françaises qui seraient en mesure de pouvoir pratiquer financièrement et qui voudraient pratiquer financièrement, mais qui ne le pourront pas ou qui ne le pourraient pas. Je pense qu'il faut tout mettre au conditionnel, puisqu'on ne sait pas comment va évoluer la situation sanitaire. Pourquoi ? Parce que les clubs eux-mêmes ne seraient pas en mesure d'organiser leurs activités, soit parce que les équipements ne seront pas rouverts ou pas dans d'assez bonnes conditions, soit parce que les activités proposées seront des palliatifs en attendant de pouvoir reprendre des activités normales. Et à l'inverse, parce que on a eu des dispositifs qui ont permis de préserver l'emploi jusqu'à présent, mais que malheureusement on peut craindre pour l'emploi en France et donc l'arrivée du chômage prochainement, on peut avoir des Françaises et des Français qui ne seront plus en mesure de pratiquer. Pourquoi ? Parce que à la rentrée, des arbitrages budgétaires pourraient être à faire et que malheureusement les activités sportives qui pourtant sont fondamentales, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nicolas Xismartoff à l'instant, et bien malgré cela pourraient ne pas pouvoir aller pratiquer parce qu'ils penseront d'abord à payer leur logement, à payer l'éducation, à payer leur traite immobilière, et donc il ne restera pas forcément de possibilité de pratiquer en club. Donc c'est un vrai sujet sur lequel il va falloir revenir, parce que le sport c'est bien plus que du sport, et ça contribue à remplir un certain nombre de missions de service public, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, et surtout ça contribue à éviter un certain nombre de coûts pour la société française.
Denis Masseglia, c'est grave ce qui vient d'être dit par Christophe Le Petit autour de cette enquête, justement.
Oui, alors bon, on en a fait une aussi au niveau des clubs, 23 000 clubs ont répondu en 5 jours, ce qui montre aussi l'intérêt pour eux de faire savoir leurs préoccupations. 15% d'entre eux disaient qu'ils étaient en difficulté financière ou qu'ils allaient l'être avec simplement un mois de trésorerie devant eux. Pour autant, la plupart marquaient leur inquiétude pour la rentrée. Parce que la plupart des clubs ont quand même une gestion saine qui leur permet d'avoir un peu d'avance de trésorerie. Et la difficulté, elle vient de qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre. Parce que ce dont on parlait sur les règles de...
Les bonnes pratiques.
Pour... Oui, mais c'est temporaire. Et puis ce sont les fédérations elles-mêmes qui les ont élaborées parce qu'il fallait trouver une période, dans une période transitoire, de quoi... quoi permettre au club de continuer leur activité, quitte à faire des balades et des choses complètement différentes de leur activité classique.
Bien sûr.
Il n'empêche que l'inquiétude, elle est sur septembre. La première des inquiétudes, elle est sanitaire. Bon, pourvu qu'on sorte de la crise. La deuxième, elle est effectivement pourvu qu'on retrouve les membres, et la troisième, pourvu qu'on retrouve tous les animateurs, en particulier bénévoles. Sur la... Moi, j'ai pas trop d'inquiétude sur le bénévolat, parce que c'est du bien vouloir, comme on dit, et les gens ont quelque part l'âme du club chevillée en eux. Après, pour ce qui est de l'attitude des parents, moi, je vous dis, je suis pas tellement inquiet là-dessus. Je pense que les parents vont amener leurs gamins à l'école, et sincèrement, il n'y a pas plus de risque dans un club qu'à l'école. Donc, on pourra, sur le plan sanitaire, se dire que les parents pourraient ramener de nouveau les enfants dans des clubs. Moi, personnellement, je trouve que c'est là l'aspect le plus important. Je vais dire quelque chose qui n'est pas assez souvent répété. Un jeune d'aujourd'hui met 30 secondes à une minute de plus au kilomètre que le même jeune il y a 50 ans.
Et ça s'explique comment ?
On est devant une catastrophe sanitaire de grande ampleur. Dans 30 ans ou dans 40 ans, ça va coûter des milliards à la sécurité sociale, parce que on ne comprend pas le fait que pour un jeune, la compétition, la pratique sportive en se dépassant permet de se construire à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan anatomique. Et le cœur de quelqu'un qui a pratiqué la compétition, ben il est quand même bien plus solide que celui qui n'en a pas fait et qui a passé sa vie devant un écran de télévision ou devant un écran tout petit pour faire des jeux vidéo. Et là, franchement, il faut que tout le monde prenne conscience de la nécessité absolue d'amener des jeunes à faire du sport et à le faire dans un club. Alors nous, on va mettre tout ce que l'on peut mettre.
C'est quoi, c'est de l'argent, tout ce qu'on peut ?
Alors tout ce qu'on peut, c'est de la promo, et puis on a un dispositif qui est, je crois, une source intéressante d'avenir, ça s'appelle la carte passerelle. On a fait appel au volontariat des clubs pour que pendant un mois et demi, les clubs accueillent gratuitement tous les enfants de CM1 et CM2 qui souhaiteraient essayer le club de leur choix, le sport de leur choix, pardon, dans le club de leur choix. Donc pour ça, il faut évidemment que chacun connaisse où il y a un club à côté de chez lui. Donc on a monté une plateforme qui s'appelle Mon Club Près de Chez Moi. Et puis on va ainsi répertorier tous les clubs volontaires. Et il faut que l'éducation nationale fasse passer le message à tous les enfants qu'ils seront les bienvenus dans un club et que c'est important pour eux, pour l'épanouissement de chacun, pour la manière avec laquelle ils vont évoluer socialement, de pratiquer dans un club. On ne peut pas pratiquer à la maison, pardon, c'est juste insensé.
Nathalie Bonnefoy, en tant que vice-présidente de cette association nationale des élus en charge du sport et adjointe au sport à la ville de Bourges, vous participez à cette manifestation qui s'appelle une campagne de dons qui s'appelle Soutien ton club, pour pouvoir justement aider à passer le mauvais pas que connaissent certains clubs ces temps-ci. Est-ce que ça suffit ou est-ce que ça suffirait justement pour faire en sorte que la pratique du sport, amateur en particulier, puisse perdurer au niveau où elle est aujourd'hui en France ?
Je partage exactement ce que vient de dire Denis Bassiglia. Il faut vraiment qu'il y ait un plan national pour le sport, puisqu'il faut vraiment favoriser l'activité physique et sportive pour tous les jeunes. Donc il serait vraiment très important que, à l'issue de ce Covid, on prenne vraiment conscience que le sport est pour moi une cause nationale. C'est pas le dernier élément ou la dernière roue du carrosse, mais au contraire, le mettre vraiment en avant. Aujourd'hui, 85% des équipements sportifs sont financés par les collectivités territoriales. Elles proposent déjà aussi des programmes d'incitation à l'école, de participation de clubs dans les écoles ou autres écoles de sport pour 30€ par mois, par exemple. Donc il faut vraiment mettre les bouchées doubles et considérer le sport vraiment comme quelque chose de nécessaire pour les futures générations.
Mais en même temps, on ne parle pas de tout le sport. Quand on a une équipe de basket, par exemple, féminin chez vous, ça n'est pas la même chose qu'une équipe de foot en national ou en coupe européenne, parce que simplement, eh bien, c'est des sports qui sont moins visibles, moins connus, moins soutenus. Et les sports féminins sont peut-être ceux qui vont payer, alors qu'ils étaient en train de monter dans la société, payer le plus lourd tribut à cette crise de la Covid.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis en charge aussi du sport au féminin au niveau de l'ANDES. Aujourd'hui, bon, il faut savoir que le sport féminin n'a aucune visibilité ou très peu. Il y a eu quand même du travail qui a été fait au niveau national. Ce n'est pas suffisant et on pourrait ressentir une après-crise par rapport au sport féminin. Je prends l'exemple de Bourges. Bon, Bourges, voilà, tout le monde connaît le tango Bourges Basket, mais rien qu'au niveau partenarial, le directeur m'annonçait qu'il allait perdre peut-être 40% de ses partenaires et 20% de ses abonnés. Donc voilà, les budgets ne seront plus les mêmes pour pouvoir développer une bonne image à Bourges du tango, Bourges basket, mais du sport au féminin en général.
Peut-être payera-t-on moins cher les sportifs. On va en parler dans un instant, car vous écoutez Le Temps du Débat. Le sport peut-il se passer du spectacle ou du sport ?
France Culture, Le Temps du Débat. Emmanuel Laurentin.
Nous sommes avec Denis Masséglia, président du Comité national olympique et sportif français, avec Christophe Lepetit, économiste au Centre d'économie du sport de Limoges, Nathalie Bonnefoy, qu'on vient d'entendre, qui est vice-présidente de l'Association nationale des élus en charge du sport, et vous-même, Nicolas Xismartoff, vous êtes journaliste à SoFoot, vous êtes auteur d'un livre qui paraît dans quelques jours, Terrain de jeu, terrain de lutte, aux éditions de l'Atelier. On a parlé du sport en général, et plus particulièrement des clubs amateurs, mais évidemment, on ne peut pas laisser de côté les tensions qu'il y a ces temps-ci dans le milieu du sport professionnel, entre ceux qui sont d'accord, comme je le disais tout à l'heure, Didier Deschamps, qui disait que l'arrêt des compétitions était une chose qui était normale et qu'il fallait accepter, ceux qui ne sont pas d'accord, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui, lui, évidemment, veut déposer une plainte, a déposé une plainte, une saisine du Conseil d'État pour jouer la fin de la saison, qui dit qu'il y aura 700, 800, 900 millions d'euros de pertes le 30 juin pour tous les clubs professionnels en France. On voit bien que là, il y a une tension très forte, Nicolas Xismartoff.
Il y a une tension. Alors après, il faut bien comprendre d'abord que ce n'est pas celle de tous les clubs professionnels, qu'il y a des dissensions. Ça dépend des sports également et des enjeux qui sont liés à chacun d'entre eux.
Le sport roi, c'est le foot.
Ouais, le sport, c'est le foot. Dans le football professionnel, les enjeux économiques sont évidemment déterminants. On voit bien que la principale préoccupation, notamment de Monsieur Aulas, c'est d'assurer la fin du championnat et le retour des droits télé, même si la LFP a souscrit un emprunt auprès de l'État, garanti par l'État pour cette saison.
Un emprunt qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre.
Exactement, parce que est-ce que c'est le rôle de l'État de se substituer ou de garantir ce type de financement, même s'il l'a fait pour d'autres secteurs économiques, et rappelons que le football a bénéficié du chômage partiel, d'exonération de charges, etc. Mais là, en plus, chez Monsieur Aulas, il y a un enjeu supplémentaire, c'est la question de savoir est-ce que son club aura eu le droit de jouer jusqu'au bout ses chances pour être en Champions League, et donc avec droit aux rentrées d'argent qui sont afférentes. Et une problématique qu'on retrouve aussi chez ces clubs qui réclament, qui se plaignent d'être rétrogradés d'office, comme Toulouse par exemple, en Ligue 2, même si la logique sportive semblait les y conduire. Il y a un enjeu économique très fort, on est sur des sommes assez importantes, et par ailleurs, le football découvre à l'occasion, le football professionnel, à l'occasion de cette crise dramatique, la fragilité, ou en tout cas l'instabilité de son modèle économique qu'il avait construit, sur lequel il reposait jusqu'à présent, ce qui évidemment suscite quelques angoisses, même si il faut quand même redescendre sur terre. Et Monsieur Noël Le Graët l'avait fait très bien dans une interview chez nos confrères de West France, en expliquant que le foot n'était pas plus à prendre et qu'on pouvait très bien passer cette saison et attendre la rentrée. Il y avait des choses plus urgentes que d'autres secteurs économiques, et surtout le pays et les familles, et les soignants et le secteur hospitalier avaient quand même vécu des choses un peu plus dramatiques et qu'on pouvait quand même un peu ronger son frein. Mais il n'empêche que oui, Monsieur Aulas, à l'échelle de son club, considère que c'est une injustice dramatique qu'on les oblige à arrêter la compétition. Ouais. Et qu'une fois encore, je rappelle, pour le coup, les supporters ont été plutôt dans la responsabilité, entre guillemets, citoyenne et civique, que certains présidents de clubs qui sont d'abord considérés ou comportés comme des chefs d'entreprise.
Christophe Lepetit, vous qui êtes économiste du sport, il y a tout de même des possibilités de faillite de clubs, ça c'est possible.
Bah, je pense qu'aujourd'hui, faut écarter aucune hypothèse. Moi, je rappelle souvent que, certes, les clubs professionnels de sport collectif sont des entreprises qui bénéficient d'une aura médiatique très importante et donc qui sont très connues. On connaît tous, ou en tout cas, une grande partie des Français connaissent le nom du président du Paris Saint-Germain ou du capitaine du Paris Saint-Germain. En revanche, personne connaît, ou quasiment personne ne connaît le nom du président de Total. En revanche, économiquement, les clubs de sport professionnels sont des PME ou des TPE, ça ne pèse rien. Et donc, effectivement, Effectivement, quand on a une mise à l'arrêt totale de l'activité sportive professionnelle, eh bien, on a certainement soit des réserves qui permettent de faire face pendant un temps, soit un ou des actionnaires qui vont assurer la continuité d'exploitation. Mais si la situation sanitaire ne permet pas une reprise dans des conditions acceptables, et en particulier avec des supporters, parce qu'il y a le côté symbolique, mais il y a aussi le côté économique d'avoir des supporters, et je dis bien des spectateurs dans les stades, eh bien, on peut avoir des situations très dramatiques à la rentrée. Donc oui, il y a des possibilités de faillite, il ne faut pas l'occulter, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, à part le foot qui clairement, lui, souhaiterait reprendre, y compris à huis clos, les autres disciplines, toutes, quelles qu'elles soient, n'envisagent pas une reprise à huis clos, peuvent éventuellement envisager une reprise avec des jauges réduites, mais pas à huis clos, parce que économiquement, ça n'est pas viable. Le rugby se finance sur le partenariat, sur l'économie réelle, le basket se finance sur du sponsoring également, sur des subventions. Donc, dans ces conditions-là, il ne peut pas y avoir de match à huis clos et d'avenir économique sur des matchs à huis clos.
Denis Masséglia, vous qui présidez le Comité national olympique et sportif français, vous n'êtes pas tout à fait cette opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le président de la FIFA, Gianni Infantino, quand il dit le monde comme notre sport seront différents après le retour à la normale? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez vraiment que il y aura un monde d'après du sport professionnel, des changements d'attitude, des baisses de salaire, des baisses de budget, etc., ou est-ce qu'on va continuer comme avant?
J'aimerais tellement qu'il y ait plus de sagesse et de solidarité, mais l'histoire prouve que parfois on a la mémoire courte, et ce que Nicolas disait sur la fragilité des modèles, notamment du sport professionnel, sera aussi d'actualité. Vous savez, on dit parfois que la question c'est comment on fait pour être millionnaire au football, et la réponse est en étant milliardaire au départ. Donc il y a un vrai souci de...
Enfin, la FIFA ça va, ils ont 2,5 milliards d'euros de réserve, donc ils sont tranquilles.
Mais la FIFA peut dire effectivement que le monde d'après sera différent. Moi je vais vous dire, ce qui me gêne dans l'aspect sport pro, c'est que, et notamment sur le football, on ne discute que des aspects économiques, des salaires des joueurs, qui, entre parenthèses, rapportent beaucoup à l'État, on doit le souligner.
Ouais, c'est normal tout de même, les salaires, c'est normal.
Non mais bien sûr. Non mais jamais, comme Nicolas l'a souligné tout à l'heure à juste titre, du lien social que le sport pro, comme le sport amateur, crée, différemment mais crée. Le sport amateur, il crée du lien social parce que dans un club, on se fait des amitiés indéfectibles, et parce que on grandit en apprenant un certain nombre de choses dans le respect de la règle qui permet de devenir un homme et un citoyen. Par contre, le sport pro, lui, crée du lien social parce que il y a des supporters et il y a une économie qui va avec le sport professionnel, quel qu'il soit. Et c'est cet aspect-là, ce domaine de lien social, de ciment sociétal que le sport pro met en avant, qui n'est pas suffisamment promu par les acteurs du sport professionnel eux-mêmes, qui se chamaillent en permanence sur un point de plus ou un point de moins qui fait perdre la qualification à la Champions League ou autre chose. Et c'est un peu ça qui est dommage. Alors si ça, le Covid pouvait le changer, ça serait déjà beaucoup.
Mais Nicolas Xismartoff, le marché des transferts pourrait... entrer en décroissance pendant cet été, justement, où les clubs professionnels vont peut-être souffrir, et où peut-être la raison pourrait atteindre un milieu qui ne la connaît pas trop ces temps-ci, avec l'augmentation régulière de ces transferts.
Après, moi, je suis très sceptique sur cette idée que la raison, justement, comme vous le disiez, va l'emporter. Alors, qu'est-ce que c'est que la raison en économie, surtout dans le système capitaliste? Ouais, faut savoir que le football fonctionne ainsi, c'est que tout le monde le veut bien, c'est-à-dire qu'on accepte des endettements faramineux.
Bien sûr.
Quand on l'a, parce que il fait marcher beaucoup de monde par ailleurs autour de lui. Donc, peut-être qu'il y aura une période de sécheresse ou un peu plus, décroissante, pendant, évidemment, suite au Covid, et que les choses vont se passer de manière au ralenti, et encore, j'ai pas de sentiment que ce soit aussi clair que ça. Dès qu'on va revenir, je rappelle quand même que le football professionnel français a signé un très gros contrat de droit télé qui va commencer à partir de la saison prochaine. Quand les sommes d'argent vont recommencer à tomber, qu'est-ce qui va se produire?
Enfin, les chaînes ne voudront-elles pas mettre autant d'argent pour un spectacle qui sera moins intéressant.
Les droits télé ont été distribués.
Ouais, mais les droits télé ont été distribués. Pour le foot, hein, les droits télé ont été distribués. Il y a énormément d'argent qui va arriver. Le Covid, on espère évidemment que cette crise va baisser l'intensité et va même disparaître. Je crains que les mauvaises habitudes, enfin, les mauvaises habitudes, je sais pas si ce sont des mauvaises habitudes, si on raisonne en termes économiques et surtout, je rappelle, dans un système capitaliste, si ce mode de fonctionnement va être forcément abandonné, si les grandes déclarations actuelles sur, qu'on peut lire à droite, à gauche, sur, la nécessité, de revenir à la raison, d'instaurer un salary cap qui serait quand même plutôt profitable au club qu'aux joueurs, est-ce que ça va forcément donner quelque chose? J'en suis pas intimement, sûr. Ouais. Et je crains malheureusement que les grands oubliés de cette crise soient une fois encore les acteurs qui ont été rappelés par M. Nessemilia, qui font que le sport professionnel, y compris, même si il est beaucoup mis en valeur, ont des rôles à jouer ou une fonction à jouer beaucoup plus large qu'on ne le pense. Mmh. Et par exemple, dans le retour à la pratique sportive, le retour des compétitions sportives, pourquoi le public est important? Parce qu'on va tous avoir besoin de reprendre, entre guillemets, le lien social, le moral, je sais pas comment dire, le plaisir qui, après tout, est
comme
aussi un moteur
spectacle,
de l'économie et de la productivité.
Comme pour le spectacle,
le plaisir
tout court.
Qu'on a à se retrouver dans le stade, au bar, etc. Et donc, je pense que sacrifier ça ou faire aller trop vite en le sacrifiant, ça risque de se payer, y compris économiquement, y compris pour la valeur de ce qu'est le produit du sport professionnel et du football en particulier.
Nathalie Bonnefoy, puis Christophe Petit, le Petit. Nathalie Bonnefoy.
Oui, tout à fait. Si ça pouvait permettre aussi d'augmenter les salaires dans le foot féminin, et qu'il y ait une plus juste revalorisation.
Alors, on vient d'apprendre que l'Euro de foot féminin est repoussé donc de 2021 à 2022, on le savait, mais que les 4 matchs de qualification seront reprogrammés en octobre, novembre et décembre prochain pour l'équipe de France. Voilà, ça vient tout juste de tomber, je vous le dis.
Voilà, ben c'est super. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup du foot et des ligues professionnelles, mais on a quand même dans le football amateur des clubs qui sont des véritables entreprises, et c'est ces clubs-là qui vont avoir des difficultés. Je cite toujours mon exemple de sport féminin, sur les montées en division 2, il y a 8 clubs en France qui sont refusés la montée en division 2. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas eu de barrage, alors que chez les garçons, il n'y a pas de barrage, voilà.
Ouais. Ah oui, effectivement, ça, ce n'est pas l'égalité souhaitée par beaucoup. Christophe Le Petit, cette question de l'argent, des investissements dans le sport, vous avez parlé tout à l'heure des possibilités de faillite, mais est-ce que ça ne serait pas le moment de repenser les grands événements, par exemple ? Les grands rendez-vous, les JO qui peuvent peut-être être annulés l'année prochaine, comme c'est la rumeur en cours, parce que même si la crise est passée, la crise sanitaire est passée, faire venir plusieurs dizaines de milliers de personnes au Japon ne sera peut-être pas une très bonne idée.
Bah, si vous voulez, moi j'ai un peu ce qu'on vient de se dire et ce qui a été partagé par les autres invités m'amène deux commentaires. Le premier commentaire, c'est oui, c'est le moment, plus que jamais, de se mettre autour d'une table et de discuter d'une réorganisation des modèles du sport professionnel ou de l'événementiel sportif. Alors pour le sport professionnel, nous, au Centre de droit d'économie du sport, on pense vraiment qu'il faut se poser la question d'une régulation globale et stricte de ce secteur.
Oui, mais c'est mondialisé, ça peut pas se faire qu'en France.
Non, mais bien évidemment, mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'avoir cette discussion-là? Autant par moment la France s'est retrouvée seule à porter ce discours-là, il faut pas oublier que la France est un des pionniers de la régulation du sport professionnel, autant aujourd'hui...
C'était du temps de Marie-George Buffet, si je me souviens bien.
Oui, aussi. Oui, tout à fait, en particulier. Mais aujourd'hui, toutes les disciplines de tous les sports sont touchées par la crise. Donc, il n'y a personne qui peut se dire, moi, je veux pas me mettre autour de la table pour réfléchir à comment construire un avenir durable. Et construire un avenir durable, ça ne passera que par la régulation beaucoup plus stricte, régulation sociale, régulation financière et régulation qui touche au marché du travail et donc en particulier aux activités de transfert. Sur la question des grands événements sportifs que vous m'avez posé, là aussi, oui... on sait que c'est un sujet qui est dans l'air du temps depuis longtemps. Beaucoup d'économistes du sport, notamment nord-américains, ont critiqué le gigantisme de certains événements, les Jeux, la Coupe du Monde de football, etc. Donc effectivement, il faut certainement revoir certaines de ces organisations. Le CIO a voté l'agenda 2020 qui justement pose certains principes pour revenir à plus de mesures. Paris 2024 a fait de sa sobriété un slogan assez important. Donc oui, il faut revenir à des choses plus basiques, moins consommatrice en carbone également, parce que c'est un enjeu majeur, les enjeux environnementaux, et donc il faut revenir à ça. Maintenant, est-ce qu'il faut tout balayer? Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que notamment quand on parle des Jeux Olympiques, ce serait une catastrophe pour l'ensemble du sport international que ce soit annulé et qu'on n'ait plus de JO, parce qu'il ne faut pas oublier que le CIO rétrocède une très 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 grande partie de ses revenus, 80 à 90% de ses revenus, sur les programmes de solidarité. Et ça, c'est pas mis en avant, mais les Jeux, ça finance l'ensemble du sport sur l'ensemble de la planète. Bah, des fédérations internationales, des CNO partout sur la planète et jusqu'à des petits clubs qui en bénéficient. Et ça, c'est top. C'est important. Cette solidarité, elle est vraiment à protéger et à garder.
Je vais donner la parole à celui qui représente le CIO, puisque le CNOSF représente le CIO en France. Denis Masseglia, pour conclure.
D'abord, ce que vient de dire Christophe est tout à fait juste. C'est même 93% que le CIO redistribue à la fois aux organisateurs des Jeux, aux fédérations internationales, au CNO, bien sûr, le CNOSF en bénéficie.
Les comités nationaux olympiques et sportifs, oui, je précise pour les auditeurs.
Pardon, les comités nationaux olympiques, oui. À partir de là, on peut se poser la question de savoir comment il faut faire demain pour que ça soit mieux. Moi je pense que ce qui se passe dans beaucoup de pays sur le football est assez illustratif de ce qu'on ne devrait pas voir en sport. C'est-à-dire que dans chaque championnat, il y a 2-3 écuries qui sont loin devant et puis les autres servent de faire-valoir. Or, pour que la compétition soit belle, il faut qu'elle soit incertaine. Pour que la compétition ait du sens, il faut qu'on puisse avoir des adversaires qui sont davantage des partenaires que des rivaux. Et là, j'ai un peu peur qu'à un moment, à force d'affaiblir tous ceux qui sont les plus faibles, eh bien, les plus importants risquent de se retrouver tout seuls avec un spectacle qui va forcément s'appauvrir puisque la rivalité ne sera plus là. Et donc ça, il faut y faire attention parce que ça me semble être un indicatif.
Il ne faut pas écraser les championnats ou écraser les compétitions, c'est ce que vous voulez dire.
Certainement, en tout cas. Et c'est peut-être ça que Gianni Infantino a voulu dire aussi, je l'espère. En tout cas, la régulation dont Christophe parlait, elle ne pourra avoir lieu qu'au niveau international, parce que les droits de télévision en Grande-Bretagne, par exemple, ils sont 4 à 5 fois plus forts que ce que l'on a en France. Et donc, l'économie du football britannique est forcément différente de celle du football français, qui elle est différente du football biélorusse.
Qui a continué à travailler pendant la crise de la Covid, le football biélorusse, qui était d'une particularité en Europe.
Mais même si on parlait du sport pro jusqu'à présent, je crois qu'en fait, la vraie problématique pour moi, elle est la suivante.
Très brièvement, on termine.
Alors, rapidement, il faut qu'il y ait de tous les côtés une analyse pour dire que une politique sportive ne payera qu'après une génération. On peut pas imaginer que ça paye tout de suite. Donc il faut que les gens aient la sagesse de réfléchir ensemble pour dire on met le sport au cœur d'un projet de société parce que ça peut apporter plein de choses et à ce moment-là on se dira que ça payera dans 20 ans.
Merci
si
beaucoup.
On a la sagesse de faire ça, on y arrivera. Voilà.
Merci beaucoup Denis Masseglia, merci Christophe Le Petit, merci à vous Nathalie Bonnefoy et merci à vous Nicolas Xismartoff. Je rappelle que votre livre Terrain de jeu, terrain de lutte sort à l'atelier le 4 juin prochain. Merci à tous les quatre. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier et Manon Prisset. À la technique aujourd'hui, Théo Gomard. À la réalisation, Olivier Bétard. Je vous conseille de lire, comme tous les jours, la conversation mondiale sur le site de France Culture préparée par le temps du débat. Aujourd'hui, Elisabeth Elgan nous envoie une lettre de Suède. C'est une historienne et c'est une lettre très intéressante à lire. Demain, le temps du débat évoquera la question des vacances. Les vacances d'été sont-elles un enjeu de santé publique? À demain.